Le Centre d'art et de culture et le FSJU, c'est aussi le Festival de cinéma Diasporama et le Festival Jazz and Klezmer. Toute notre programmation est sur le site culture-juive.fr.
Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Alain Lefebvre, président des Gardiens de la Vie. Bonsoir Alain.
Bonsoir Sandrine, merci de m'avoir invité.
Avec grand plaisir. Vous avez plusieurs titres. Vous êtes à la fois président du consistoire régional de Lorraine, trésorier du consistoire central. Vous êtes également récemment devenu président de l'Association pour les gardiens de la vie, et c'est ce qui nous vaut votre présence dans nos studios aujourd'hui. Depuis sa fondation en 1996, sous l'égide du consistoire central de France et de son président Jean Cannes, dirigé par Gérard Blum, l'Association française pour l'hommage aux gardiens de la vie vise à faire reconnaître et honorer les Juifs ayant sauvé d'autres Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, une action distincte de celle de Yad Vashem, qui honore uniquement les non-Juifs. Est-ce que j'ai bien résumé la mission de l'association ou est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ?
Non, c'est exactement ça. Et je tiens à signaler quand même, 96, c'est un an après 95, le discours de Chirac au Veldiv, donc qui a bien resitué la responsabilité de l'État français. Et donc, il a paru évident à, d'une part, Jean Cannes et à Gérard Blum de faire quelque chose pour des gens qui étaient oubliés un petit peu. Souvent, dans l'esprit populaire, même juif, les Juifs étaient passifs. Or, en fait, il y a d'abord eu une résistance juive très importante, avait des actions armées très importantes, et il y a aussi eu énormément de Juifs qui ont sauvé d'autres Juifs, que ce soit en France ou que ce soit à l'étranger.
Et c'était doublement périlleux pour eux, et c'est ce qui fait aussi la différence avec Yad Vashem, qui n'honore que des non-Juifs. C'est une condition indispensable pour cette institution.
Absolument. Yad Vashem en 1953, et ça, je reprends les termes exacts de la directrice de Yad Vashem quand on l'a rencontrée, nous a dit c'est une erreur qu'on a commise en 53, c'était un vote de la Knesset, rappelons-nous, d'avoir dit que c'était des personnes qui étaient non-juives. Donc là, ça permet de pallier à ce manque et à redonner leur valeur à ces hommes qui ont donné leur vie quelquefois. Et il faut savoir dans quel esprit ils étaient quand vous en discutez avec certains ou même certains résistants. Ils vous disent la phrase très simple, pour un juif, il n'y avait pas d'autre solution.
Depuis quand vous, personnellement, vous faites partie de l'association et pour quelle raison vous avez choisi de vous y engager ?
Alors je fais partie de l'association quasiment depuis le démarrage. Parce que je suis un Parisien et à côté de vos locaux, et j'ai épousé une Nancéenne en 75, et donc en 96-97, j'étais à Nancy, et le premier président des Gardiens de la Vie était Gérard Blum, président de la communauté de Nancy, donc je l'ai aidé concrètement pour la mise en place de l'association, pour les relations avec Yad Vashem, et pour les premières décisions concernant les Gardiens de la Vie.
Vous êtes président depuis quelques mois de l'Association pour les gardiens de la vie. Qu'est-ce que ça change pour vous ?
Ça change une plus grande responsabilité, c'est certain. Mais j'ai une équipe très bien construite, et vous le savez bien, autour de moi, des historiens qui sont de grande valeur. Et il faut bien le dire que cette association ne pourrait pas vivre sans avoir des historiens qui mènent des enquêtes. Parce que c'est réellement des enquêtes. Et sans les historiens, on n'aurait pas cette valeur scientifique. Et je dirais, la crédibilité du titre serait sujet à caution.
Alors, c'est une question que j'allais vous poser, justement. Pour l'attribution du titre de gardien de la vie, il y a un processus de recherche rigoureux suivi par la commission d'attribution du titre de gardien de la vie. Vous venez de nous en parler. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus ? C'est qu'on vous propose un dossier à l'association et avant l'attribution du titre, quelles sont les étapes ?
Oui, alors on nous propose ça peut être des personnes qui ont été sauvées, ou ça peut être des institutions, ou voire même Yad Vashem qui nous propose des gens. À ce moment-là, le dossier est donné aux historiens qui mènent une enquête scrupuleuse, d'abord sur les éléments qu'on leur a transmis, et il faut des témoignages, Il faut des témoignages de personnes, si possible, pas de la même famille et pas de la même provenance. Et puis, il y a tout un travail historique à faire, très important. Et le travail historique, c'est-à-dire une recherche dans les archives. Dans les archives du mémorial, c'est encore assez facile, mais après, il faut aussi aller dans les archives départementales, voir, comme ça a été le cas dernièrement, des archives à l'étranger, en Suisse. Et c'est seulement... quand on a, je dirais, épuisé toutes ces recherches, qu'on a pu faire une idée synthétique globale, qu'à ce moment-là, les historiens demandent à la commission de se réunir et c'est une décision collégiale, mais avec un support historique très important.
Alors, on va lever un secret de Polichinelle. Hein. Vous êtes ici, et moi aussi, et je fais partie de cette commission historique avec Paul Lévy, notamment, depuis plusieurs années. Et il faut dire et redire que les examens des dossiers sont faits avec une rigueur d'historien très pointue. Et aucun dossier, en tout cas aucun titre, n'est remis à la légère. Il y a une enquête, une investigation très pointue avec des archives avant d'arriver à la remise du titre. Vous citiez il y a un instant la date de 1995 et le nom de Jacques Chirac. L'association gère également le mémorial de la Clairière des Justes à Thonon-les-Bains qui a été déclaré mémorial national par le président Jacques Chirac lors de son inauguration le 2 novembre 1997. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce mémorial ? De quoi il s'agit ?
Alors, c'est le mémorial national pour les Justes de France. En premier lieu, c'est pour ça. Alors, ça a été un désir du Consistoire central de faire un mémorial national. Et c'était une décision de Jean Kahn, sous la présidence de Jean Kahn. Ce mémorial, on aurait aimé qu'il soit situé au Chambon-sous-Lignon, parce que c'était symboliquement très fort. Mais à l'époque, le Chambon-sous-Lignon était réticent d'avoir un mémorial national sur son territoire. Donc, grâce à Jean-Bernard Lemel, qui était juste le président qui m'a précédé, il y a eu l'idée de le faire à Thonon-les-Bains. Alors, pourquoi Thonon ? Thonon-les-Bains est une ville très proche de la frontière suisse. Déjà, le lac Léman, il y a juste le Fersco, et puis, je dirais, par la terre, très proche. Et c'est un terrain où, je dirais, il y a eu beaucoup de justes parmi les nations, mais aussi de juifs qui ont sauver d'autres juifs. Et donc, c'était un terrain de passage et, je dirais, les principaux passages étaient vers la Suisse. Et même encore maintenant, dans ma jeunesse, j'allais en colonie de vacances juive à Morgins. Et la maison dont on allait, c'était la maison de Lozé, l'œuvre de secours aux enfants. Et cette maison de Lozé était juste quasiment accolée à la douane suisse. Et donc, cette maison a servi au moment de la Shoah pour récupérer ses enfants. Donc, c'est un lieu de passage important. C'est un lieu où il y a beaucoup eu d'actions exemplaires. Et donc, ça semblait logique qu'on puisse le faire à Thonon-les-Bains.
Alors, qu'est-ce que c'est, en fait ? C'est un monument ? C'est une plaque ? C'est un parc ? C'est tout ça à la fois ?
C'est un peu tout ça à la fois. C'est situé dans un arborentum. Une très, très belle forêt. C'est une clairière avec un monument, avec une œuvre architecturale et avec des arbres. Et des arbres tout autour qui ont été des nouveaux arbres, parce que c'est une forêt, des nouveaux arbres d'espèces différentes pour montrer la différence. Pour montrer, toutes les personnes qui ont été d'une part sauvées. Parce que on a parlé des Juifs, mais il y a eu aussi des grandes actions à Thonon sur les Tziganes. Et Jean de Reinhardt était à Thonon. C'est d'une part les gens qui ont été sauvés et aussi la multitude de figures des sauveurs. Parce que nous avons tout. Ça peut être un employé de préfecture, ça peut être un simple paysan, ça peut être un maire, etc.
Alors, c'est une question aussi que j'allais vous poser, vous me devancez une nouvelle fois. Avec le nombre de dossiers qui ont été étudiés et de titres décernés, est-ce que se dégage un profil type du gardien de la vie ?
Non. Non.
C'est dans la diversité, la pluralité que s'observe. Est-ce qu'on pourrait dire que généralement, les gardiens de la vie ou les justes hein, sont des personnes modestes qui ont des réticences à recevoir ce titre ou à le demander parce que pour nombre d'entre elles, elles n'ont fait que ce qui devait être fait.
Oui, c'est exactement ça. Alors, le terme modeste, c'est pas celui que j'aurais choisi parce que c'est pas un terme social. Il y a une modestie dans l'action qu'ils ont fait. Et ça, on le retrouve tout le temps. Je dirais, personne ne va mettre en valeur les actions qu'elle a faites au niveau du sauvetage ou même de la résistance. C'est quasiment général et on n'a jamais quelqu'un qui vient nous dire « moi, il me faut un titre, etc. » On n'a jamais vu ça.
Ou quand ça arrive, c'est suspect.
Voilà, absolument.
Est-ce que vous avez une idée du nombre de titres de gardien de la vie à avoir été décerné depuis la création de l'association?
C'est une colle, je vais vous retourner la question.
Alors, c'est plus de 200 gardiens de la vie, avec des histoires exceptionnelles pour certains. Est-ce qu'il y a des noms que vous pourriez nous citer? Par exemple, le patron de DIM, Bernard Giberstein, quand je commence, c'est quand même une histoire incroyable.
C'est absolument une histoire incroyable. C'est quelqu'un qui est originaire de Pologne, qui a commencé ses études d'ingénieur en Belgique. Juste avant la guerre, devait retourner en Pologne, mais n'a pas pu y retourner, donc est resté en Belgique, est rentré en France, a été résistant, a été pris, s'est échappé, si je ne me trompe pas, est passé par la Suisse aussi.
Exactement,
si je ne me trompe pas, et était dans un camp en Suisse, mais s'est échappé du camp de Suisse pour revenir en France, et donc sauver et aider des juifs et des enfants juifs à passer en Suisse.
Tout à fait. Et c'est quelque chose que même sa famille ne savait pas. Son fils Daniel, s'il nous écoute, on le salue. Il a fallu faire cette enquête justement pour essayer de déterminer quelle a été l'action de son père. Est-ce qu'il a d'autres cas qui vous ont marqué?
Oui, il y a d'autres cas. Bientôt, il y aura le Mime Marceau. Et là aussi, vous connaissez beaucoup mieux l'histoire que moi. Y a quand même des cas qui sont emblématiques. Y a des cas de faussaires. Donc, on voit que c'est un éventail très important. C'est-à-dire que ça va des personnes qui font des faux papiers, aux personnes même qui peuvent distribuer de l'argent, parce qu'il y avait des fonds de la Joint qui étaient distribués aux Juifs durant la guerre, et donc il y avait un risque important à ces personnes-là, des personnes qui ont aidé en cachant les gens, en trouvant les endroits pour les cacher, et les personnes qui ont aidé en faisant passer l'île de démarcation, mais surtout la frontière avec la Suisse.
Est-ce que vous pouvez nous dire comment fonctionne l'association et sous l'égide de qui elle est placée? Elle est toujours en fonction grâce au consistoire central, c'est bien ça?
Absolument, non, mais elle est toujours en fonction grâce au consistoire central. C'est une association qui a été créée par le consistoire central, qui est indépendante du consistoire central, mais son membre de droit est le président du consistoire central, Élie Corsia, et le grand rabbin de France, Raïm Corsia.
Et combien de personnes à peu près font fonctionner l'association bénévolement, il faut le dire?
Alors, bénévolement, alors on va dire, dans le comité, on est une dizaine de personnes, fait fonctionner, je dirais, sont là présents à toutes les réunions, 7 à peu près.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie d'Alain Lefebvre, président des Gardiens de la Vie, qui nous parle de son association. Chaque année, une journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémitistes de l'État français, ainsi qu'un hommage aux Justes de France et aux gardiens de la vie, se tient à Thonon-les-Bains, dans la clairière de la forêt de Ripaille. C'était il y a peu. Comment se déroule cette cérémonie que vous allez présider cette année?
Oui, donc je vais la présider pour la première année. Alors, ça a eu lieu ce matin. Donc, c'est une cérémonie qui est organisée par la mairie de Ripaille et par la préfecture, et donc il y a évidemment les discours du maire, quelquefois des remises de titres de gardien de la vie, quand il y a eu un titre de gardien de la vie pour la région de Haute-Savoie, et il y a un discours que le président des gardiens de la vie fait, puis c'est clôturé par la sous-préfète ou le préfet quand il est présent.
Il y a une nouveauté aussi depuis peu, c'est un site internet qui présente l'action et les titres remis aux gardiens de la vie. Quelles autres informations on peut y trouver et comment on y accède à ce site ?
Alors, le site internet, c'est simple, c'est gardiendelavie.org. Donc, y a des informations historiques sur l'association. Il y a les faits marquants de cette association qu'il y aura. Il y aura, je pense, ce qui s'est passé ce matin. Et il va y avoir aussi un travail qui va être entrepris avec l'aide du mémorial de la Shoah, c'est-à-dire qu'il a été décidé de numériser tous les dossiers et tout le travail des historiens pour qu'elle soit premièrement à la disposition de tout le monde et deuxièmement des historiens futurs aussi qui voudraient voir d'une façon globale certains aspects des gardiens de la vie. Donc c'est un travail important qui va être fait par le mémorial de la Shoah et on va mettre sur le site, d'abord une fiche historique sur les faits, avec une photo de la personne qui a eu le titre de gardien de la vie, et puis il y aura des documents qui seront joints à cette fiche historique.
Il faut insister, hein, le mémorial de la Shoah à Paris est partenaire du fonctionnement de l'association.
Absolument. Oui.
Si quelqu'un nous écoute et souhaite ouvrir un dossier, quelles sont les étapes à suivre ? Comment on contacte l'association des gardiens de la vie ?
Alors, le plus simple, c'est la colle.
Alors, il y a normalement sur le site internet une entrée qui permet de contacter les gardiens de la vie et de déposer un dossier.
Voilà. Il y a un contact, il y a un point, il y a un onglet contact. Et donc, si possible, nous transmettre le maximum d'informations, des éléments de témoignage si vous en avez, et pour qu'on puisse avoir, je dirais, un début de piste pour pouvoir faire cette recherche historique.
On en parlait un petit peu au début. Remettre un titre n'est pas seulement remettre un titre, c'est démontrer que les Juifs n'ont pas été passifs dans la solution finale et dans la Shoah, qu'ils ont eu une action pour se sauver eux-mêmes et sauver d'autres personnes. Est-ce que c'est important aujourd'hui, et notamment après le 7 octobre, de rappeler que cette action existe et qu'elle honore des Juifs qui ont sauvé d'autres Juifs ?
Je pense que dans l'institution actuelle, c'est extrêmement important. Et c'est extrêmement important pour plusieurs raisons. Premièrement, ce titre de gardien de la vie n'a pas été choisi au hasard. Il y a une règle, basique, je dirais fondamentale pour la religion de juifs, c'est tekouach nefesh, c'est-à-dire sauver une vie. C'est-à-dire que s'il y a moyen de sauver une vie, on a le droit d'enfreindre toutes les règles, toutes les lois. Alors normalement, c'est quelque chose qui considère les lois juives. Mais ça veut dire aussi que c'est valable pour les lois du pays où on est, quand normalement, il y a aussi la deuxième règle qui est la loi du pays est ma loi. Mais il y a des cas où on doit savoir s'affranchir de la loi de son pays. Et ça, le titre de gardien de la vie représente bien cette symbolique juive.
Vous êtes au consistoire, on le sait, hein, vous avez plusieurs fonctions localement et à Paris. Est-ce que c'est compliqué avec cette hausse de l'antisémitisme d'avoir des fonctions communautaires aujourd'hui ?
Oui, parce que c'est une responsabilité supplémentaire. C'est essayer de sensibiliser les pouvoirs publics à tous les niveaux sur la problématique de l'antisémitisme. C'est à proposer des actions. Parce que je pense que si on est responsable communautaire, c'est pas seulement des demandes, mais aussi des propositions d'actions concrètes. Et d'arriver à faire aboutir ces actions en insistant sur leur urgence. Malheureusement, je dirais, ces dernières années, on a demandé des actions et ils n'ont pas été écoutés. Et je rappellerai que les territoires perdus de la République, c'est en 2002, 22 ans.
Oui, Georges Bensoussan.
Voilà. Barbara Lefebvre. Je pense que c'est quand même quelque chose d'important à rappeler. Et on avait demandé des actions. On a réussi localement dans certains endroits à faire des actions. Mais il y a une frilosité par une appréhension. Mais là, maintenant, on est au pied du mur. Je dirais, à l'heure actuelle, il y a encore eu des articles dernièrement sur le nombre de Français qui veulent faire leur alia. Je dirais, c'est aberrant. C'est aberrant que des citoyens français soient obligés de penser qu'ils ne vont pouvoir vivre tranquillement que dans un autre pays, que leur propre pays, qui était le pays de leurs ancêtres.
Il faut rappeler aussi que c'est toujours délicat de faire des comparaisons avec ce qui s'est passé, notamment avant la guerre ou pendant la guerre, parce que ça contribue à banaliser quand même la Shoah, l'extermination ou la tentative d'extermination des Juifs d'Europe et d'Afrique du Nord. Mais quand même, il souffle un vent mauvais. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir des Juifs en France ?
Je suis inquiet. Je pense que ce n'est pas dangereux de faire des relations. Je pense que
pourquoi ?
Il faut connaître l'histoire pour en tirer des enseignements. Et voir que des choses qui, à l'heure actuelle, peuvent nous paraître minimes, par exemple le problème dans les universités à l'heure actuelle, qui ne touche pas, il n'y a pas énormément de personnes qui sont antisémites dans les universités. Mais il faut se rappeler que, je dirais, en Allemagne, c'est en 1921 qu'il y a eu l'interdiction des Juifs dans l'association des étudiants allemands. L'État n'était pas antisémite en Allemagne, a cassé cette décision. Il y a eu un vote des étudiants qui ont rejeté l'appartenance des Juifs à cette association à 75%. Donc, on peut se poser des questions à l'heure actuelle, quand on se voit ce qui se passe au niveau universitaire. Donc, l'histoire, elle doit nous rappeler certaines choses qui se sont passées et nos prédécesseurs ont laissé faire, ou on dit c'est pas grave. Et non, on ne peut pas laisser faire. On ne peut pas laisser dire certaines choses. On doit systématiquement répondre et on doit être actif. Et c'est en fait aussi le message de ces gardiens de la vie, de ces justes. Ils n'ont pas laissé faire. Donc, écoutons leur message.
Est-ce que l'association a besoin d'être soutenue par des dons notamment ?
Oui, bien sûr, comme toute association, je dirais, on a besoin de dons, c'est sûr. On a besoin aussi de personnes qui donnent des dossiers, parce que je pense que on a parlé de cette... les gens qui ont été dans l'action sont très humbles et n'en parlent pas. Quelquefois, leur famille ne le connaît pas. Et on a parlé de Gilbert Stein, son propre fils ne connaissait pas. Donc, on a besoin de, ces personnes à l'histoire quasiment, de compléter l'histoire de la Shoah en montrant tous les aspects.
Est-ce qu'il y a un point que vous aimeriez ajouter ou aborder pour conclure ? Est-ce qu'on a oublié quelque chose ?
Je pense qu'on a fait le tour. Je pense que... je pense qu'il faut se rappeler que on a, Simone Veil disait, j'aime pas le terme de devoir de mémoire, on a un devoir d'enseigner. Et je pense qu'elle a raison, qu'elle avait raison. Ce que fait l'association Les Gardiens de la Vie, c'est d'avoir des bases historiques fiables pour pouvoir transmettre cet enseignement et de pouvoir transmettre l'enseignement par l'exemple. Qu'est-ce qui plus beau comme enseignement que de transmettre par l'exemple. Donc ça, je pense que ce type d'association est importante pour montrer concrètement les choses, pour montrer d'une façon positive les choses. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur le malheur, on est sur l'action. Il faut savoir réagir dans la discrétion, savoir réagir, en faisant des actions concrètes. Mais l'essentiel, c'est de réagir.
Et la résilience, évidemment, théorisée et connue en France grâce à Boris Cyrulnik. Merci beaucoup, Alain Lefebvre, président des Gardiens de la Vie, pour ces informations très claires autour de l'association. Et vous l'avez compris, si vous souhaitez proposer des dossiers, vous pouvez nous les communiquer et consulter le site avec les archives des précédents titres qui ont été remis pour en savoir davantage. Bonsoir et à très bientôt.
Bonsoir Sandrine et bonne soirée.
Le Centre d'art et de culture et le FSJU, c'est aussi le Festival de cinéma Diasporama et le Festival Jazz & Klezmer. Toute notre programmation est sur le site culture-juive.fr.